99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 9 mars, quelle merveilleuse journée. 11 degrés sous le ciel de Lanaudière actuellement à l'émission. Aujourd'hui, Jean Desrochers du Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. On va parler de la programmation culturelle des prochaines semaines. Le prix à la pompe pourrait rapidement dépasser les 2$ le litre au Québec. On en parle avec Pierre Paquette. Avec nous également Monique Posé, ex-députée fédérale de Repentigny. Elle dénonce le nombre de féminicides que connaît le Québec là, depuis le début de l'année. Également avec nous à l'émission Tatiana Auguste, ainsi que Nathalie Sinclair Desgagnés, les candidates respectivement libérales et bloquistes dans Terrebonne. Mais tout d'abord, à moins d'un revirement de situation, le Parti libéral du Canada de Mark Carney là, devrait remporter les élections partielles dans les circonscriptions ontariennes de University Rosedale et Scarborough Sud-Ouest. C'est pourquoi tout le monde a les yeux tournés là, vers chez nous, Terrebonne, où un vote en faveur du Parti libéral du Canada permettrait aux libéraux là, de former un gouvernement majoritaire. François Morin a échangé avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
Rarement une élection partielle aurait été aussi importante et là, ça nous concerne en tout cas pour les électrices, les électeurs là, de cette circonscription-là, de Terrebonne. Un mot rapide quand même sur les deux autres. Effectivement, ce sont deux châteaux forts libéraux qui ont voté libéral depuis plusieurs élections. Et avec la tendance qu'on a un peu partout dans le pays où les libéraux sont avantagés au détriment là, notamment du Parti conservateur, et on parle même pas du NPD ici, ça serait très surprenant que les deux autres circonscriptions, là, University Rosedale et Scarborough Sud-Ouest, ne passent pas, ne demeurent pas dans le fond dans le giron libéral. Donc, si effectivement ce qui devrait se passer se produit, que ces deux circonscriptions-là revotent libéral, ben il va rester Terrebonne. Pourquoi là, ça devient si important? Parce que si les deux autres passent libéral, les libéraux vont être à un cheveu, à un siège, de devenir majoritaire. Et ça pourrait être la circonscription de Terrebonne. C'est pour ça que tout le pays va suivre avec intérêt, pour les gens qui s'intéressent du moins à la chose politique, à ce qui va se passer à Terrebonne. Sachant que la dernière fois, justement, ça a été le plus serré possible, c'est-à-dire gagné par une voix par le Parti libéral, par Tatiana Auguste, mais finalement, c'était une égalité avec ce vote-là qui avait été perdu par la Poste, qui était pour le Bloc québécois. Et depuis un an, ben les libéraux, de façon générale, dans le pays, font un peu mieux. Il y a un certain appui, encore une certaine lune de miel pour Mark Carney et son gouvernement. En même temps, il y a, c'est normal, certaines insatisfactions aussi, certaines critiques notamment faites par le Bloc québécois. Et donc, ça peut donner une porte pour Nathalie Sinclair Desgagnés, la candidate bloquiste et ancienne députée du Bloc également de la circonscription, de pouvoir marquer des points. Ce qui fait que personne ne peut prédire présentement qui va gagner la circonscription. Espérons juste que peu importe qui va gagner, ça sera plus que par une vote, par une voix, par un vote. Donc, si le Parti libéral gagne, le gouvernement va être majoritaire, mais sur la peau des fesses. Et là aussi, les psychodrames, en fait, d'un côté ou dans l'autre, ne seront pas terminés parce que même si les libéraux deviennent majoritaires, ben ça va être tellement serré qu'il faut que tous les députés soient présents lors des votes importants, sans aucune absence, et que tout le monde vote du bon sens. Donc, ça va forcer Mark Carney à parfois négocier beaucoup avec certains députés qui pourraient avoir des malaises pour une raison ou une autre avec tel ou tel vote. Même chose si c'est le Bloc québécois qui gagne finalement, ça va être minoritaire, mais de très peu. Et là, ben chaque vote, va falloir voir qui est présent, qui est absent, comment les gens vont voter. Ça demeure excessivement serré dans un sens ou dans l'autre, mais c'est sûr pour les libéraux, ben, ils préfèrent être majoritaires de façon serrée que l'inverse.
Et d'autant plus que les projections de QC125 publiées hier font état d'un mince écart d'un seul pourcent, un seul point de pourcentage entre le Bloc québécois et le Parti libéral dans Terrebonne.
Oui, et quand on parle d'un point de pourcentage dans une circonscription, c'est une façon de dire qu'on est à égalité statistique. Pourquoi qu'il y a un petit avantage pour le Bloc? Ce qu'on peut présumer, j'ai pas accès aux fins détails de la méthodologie, mais c'est puisqu'il y a une tendance plutôt bloquiste dans la circonscription de Terrebonne depuis longtemps, Ben, ça fait en sorte qu'il y a une petite avance pour le Bloc québécois, mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à égalité statistique entre le Bloc québécois et le Parti libéral en termes de projection, en termes de sondage, et ben là, il va falloir attendre le jour du vote pour savoir comment ça va se passer, quel va être le résultat de tout ça le 13 avril prochain, probablement attendre la fin de la soirée, si la tendance se maintient, puisque chaque vote, comme on disait, risque de compter pour voir finalement qui gagne, sauf s'il y a une surprise puis une tendance qui se dégage avant.
Je veux parler des candidates maintenant. Laquelle des deux qui a le plus de pression?
Madame Tatiana Auguste était une des plus jeunes députées de la Chambre des communes. Elle avait remporté donc quand même pendant un temps, considérée avoir remporté, elle a quand même siégé là, pendant à peu près un an, d'avoir remporté cette circonscription-là qui pourtant votait, comme je le disais, bloquiste avant. Elle avait battu, ou à tout le moins chauffé excessivement les fesses, ça c'est clair, Nathalie Sinclair-Desgagné qui était députée sortante. Et il pourrait avoir un vent de sympathie à son égard parce que elle a rien fait de mal, elle avait remporté l'élection, ou du moins à ce moment-là c'était considéré comme tel. Finalement, l'élection est annulée, mais c'est pas parce qu'elle a démérité ou qu'elle a fait quelque chose de mal, là, bien au contraire. De l'autre côté, Nathalie Sinclair-Desgagné était la députée bloquiste. Elle a, pendant un temps, perdu cette circonscription-là. Donc ça, il y a toujours une notion de démérite-là, mais en même temps, déjà, l'an passé, on se souviendra que c'est dans un contexte d'élection tellement particulier avec la guerre tarifaire et l'arrivée de Donald Trump. Ça faisait pas longtemps qu'il était au pouvoir. Il y avait un gros sentiment dans le pays d'urgence qui avait favorisé les libéraux. Ce sentiment-là s'est un peu estompé depuis, mais demeure un peu présent. Nathalie Sinclair-Desgagné, des gens, elle se l'est aussi une victime de l'histoire. Des gens vont aussi éprouver de la sympathie à son égard, considérant le combat qu'elle a mené en partie à ses propres faits. À ses propres frais, pour aller à la Cour suprême, qui a pu statuer que, ben oui, il fallait reprendre cette élection-là, dans tout le contexte de ce qui s'est passé. Est-ce que des gens qui ont voté libéral dans le contexte, mais en pensant pas nécessairement que les libéraux gagneraient, le constatant que c'était effectivement les libéraux qui ont gagné la dernière fois dans la circonscription, pourraient décider de changer et retourner à leurs amours avec le Bloc québécois? Possible, au contraire, de dire, ben finalement, voter libéral, ça a un sens. Ça se peut que ça soit les libéraux qui gagnent la circonscription. Je veux encourager cette formation politique-là. C'est très difficile de déterminer comment les gens vont penser dans le fin détail. En plus, il y a des choses qui vont se passer au courant du prochain mois, d'ici le jour du vote, le 13 avril. Et tout ça peut avoir une incidence sur le vote de la population. Et certainement que la grande question à laquelle les gens vont devoir penser, la question de l'urne va être, est-ce qu'on veut que les libéraux soient majoritaires ou pas?
En terminant, on va donc assister à une parade de chefs et de députés là, pendant à peu près un mois.
Ça, c'est sûr. Qu'on risque de revoir Mark Carney ici. Il était déjà passé au lendemain, là, dans les jours qui ont suivi la décision de la Cour suprême. Il était déjà passé dans la circonscription pour soutenir Tatiana Auguste. Il a fait parvenir une lettre là aux électeurs de la circonscription pour leur demander de voter pour Tatiana Auguste dans l'élection partielle. Et François Blanchet, le chef du Bloc québécois, va passer beaucoup de temps ici. On parle beaucoup des deux, on parle pas vraiment des autres formations politiques. Soulignons-le quand même parce que, ben, d'après les sondages et les grandes tendances depuis de nombreuses élections, ils ne sont pas les autres formations politiques là dans la course. Ça va être une course à deux. On peut imaginer que non seulement les chefs vont être présents, mais d'autres têtes d'affiche, tant du Bloc québécois que du Parti libéral du Canada, les autres formations aussi là associées, je pense au Parti québécois qui risque de vouloir prêter un peu la main forte à son parti frère, le Bloc québécois.
Bon, voilà, c'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger. Et selon les projections là, de QC 125 pour la circonscription de Terrebonne, ça demeure toujours, toujours, toujours serré, là, très serré. On donne 39% au Bloc québécois et 38% au Parti libéral du Canada. Et justement, dans un instant, les deux candidats qui s'affrontent dans Terrebonne, dans cette partielle, Tatiana Auguste du Parti libéral et Nathalie Sinclair-Desgagné du Bloc québécois.
Venez célébrer l'arrivée du printemps à l'érablière Jean-Parent de Saint-Ambroise-de-Kildare. Au menu, jambon, bacon, sirop d'érable, tire sur la neige, ainsi que tous ces délicieux accompagnements qui ont fait la réputation de l'érablière Jean-Parent. Et tout cela à volonté. La grande famille de l'érablière Jean-Parent vous souhaite un sucré bon printemps. Réservation 450-753-3146. Pour plus d'informations, jeanparent.com. Apportez votre boisson. L'érablière Jean-Parent est située au 1571 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.
Ici Pascal Babin. Le Festival Saint-Patrick de Radon, présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, est de retour. La municipalité vous propose un week-end festif de tradition irlandaise du 13 au 15 mars. Des soirées animées, des activités pour toute la famille durant 3 jours. Et ça se termine le dimanche avec la traditionnelle parade dans les rues de Radon de 14h. Mais arrivez tôt, puisque plusieurs activités sont prévues avant, pendant et même après la parade. La municipalité tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Visitez le radon.ca pour plus de détails.
Combien de cornichons Harvey's peut-il caser dans son événement spécial cornichons? Comptez 4 cornichons frits et croustillants pour seulement 3$. En plus du retour de notre poutine aux 2 cornichons, garnis de cornichons croustillants et en dés, délicieusement relevés. L'événement spécial cornichons chez Harvey's. Disponible au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
Pour un temps limité, taxe en sus.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Lanaudière PM, politique fédérale.
Bon, il est 16h18. Les hostilités reprennent dans Terrebonne en vue de la partielle qui aura lieu le 13 avril. Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer les deux principales candidates en liste, la libérale Tatiana Auguste et la bloquiste Nathalie Sinclair Desgagnés.
Madame Auguste, une deuxième élection depuis avril 2025. Comment on voit ça?
Ça commence très bien. Cette deuxième élection, c'est sûr que j'ai plus d'expérience. En même temps, je peux dire que je suis enracinée dans la communauté. J'ai eu le temps d'apprendre à connaître les gens du comté, de me familiariser encore plus avec eux. Je pense que c'est ça qui fait que c'est différent, puis que les gens me connaissent plus maintenant. Donc, c'est sûr que ça fait une grande différence.
Qu'est-ce qu'on a appris de la première expérience électorale qu'on veut appliquer en 2026 pour la partielle du 13 avril?
C'est sûr que encourager tout le monde à aller voter, c'est comme... je pense que c'est la leçon que tout le monde peut dire qu'ils ont appris. C'est sûr que encourager les gens à aller voter, puis aussi de penser à ce qui leur tient à cœur. Puis pour moi, c'est vraiment de mettre Terrebonne à la table des décisions. Puis ça a toujours été ça dès le début, puis ça va continuer à être ça.
On dit que l'élection 2026 est cruciale là, pour le gouvernement libéral. C'est un gouvernement minoritaire. 3 élections partielles pour faire une grosse différence. Est-ce qu'on sent une pression additionnelle pour gagner, pour justement aller chercher cette majorité qu'on veut?
Moi, je suis vraiment concentrée sur la meilleure façon pour moi de représenter les gens de Terrebonne. C'est pas un enjeu pour moi en ce moment. Mon enjeu, c'est vraiment d'aller à la rencontre des citoyens puis de vraiment pouvoir discuter avec eux, de voir c'est quoi qui leur tient à cœur.
Vous entendez quoi déjà sur le terrain?
C'est sûr que ce qui revient quand on fait du porte-à-porte, c'est vraiment tout ce qui est coût de la vie. pour les gens, c'est vraiment l'enjeu numéro un pour eux. Ensuite, on me parle surtout de tout ce qui est de l'échangeur Urbanova, des projets sur lesquels justement je travaillais puis que j'aimerais continuer à travailler là-dessus. Puis aussi, on me parle vraiment de la vie dans Terrebonne, de la communauté, puis de comment on peut continuer à avoir une communauté active.
On sent certaines inquiétudes dans le monde agricole, la Nodoua, par rapport à la venue de ce qui pourrait être là, le train grande vitesse, le fameux TGV. Vous avez un point de vue là-dessus?
C'est sûr que le TGV, c'est un projet qui, éventuellement, sera bon pour tout le monde, pour notre économie, pour l'environnement et pour plein de choses. C'est sûr qu'il faut travailler en collaboration avec Alto pour avoir le meilleur tracé possible et vraiment bien traiter les gens dans tout ce processus qui va se faire.
Les fameux tarifs douaniers de M. Trump depuis un an ont beaucoup fait jaser. Ça a eu des effets néfastes, pervers. C'est une clientèle que vous allez voir.
Absolument. C'est sûr que travailler avec les entreprises, c'est quelque chose que j'ai fait et que je vais continuer à aller les voir parce que pour moi, c'était très important de justement les insérer dans notre chaîne d'approvisionnement de la défense. Justement, j'étais en organisation. Malheureusement, je ne pourrais plus participer, mais d'un sommet de la défense pour savoir comment chaque entreprise, que ce soit du textile à la nourriture, peuvent s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement militaire.
Il y a encore ce fameux dossier de l'enfouissement à Mascouche des terres contaminées sur la base militaire de Bagotville. Ça vous interpelle parce que ça fait jaser.
Absolument. Et même si je ne suis pas la députée de Mascouche, ça m'a fait plaisir de mettre le maire de Mascouche un peu plus en contact avec le bureau du premier ministre puis de voir comment on peut avancer ce dossier-là. Puis je pense que même les citoyens de Terrebonne se sentent interpellés par ce dossier.
Vos adversaires bloquistes parlaient ce matin au lancement au moment de l'ouverture du bureau électoral de votre adversaire bloquiste, que le Bloc québécois veut reconquérir Terrebonne. Il y a une tradition péquiste, bloquiste ici. C'est quelque chose qu'on peut adresser, ça, de votre part?
C'est sûr que les années ont été ce qu'elles étaient, mais je pense que les gens de Terrebonne veulent faire partie de la table des décisions, qu'il faut absolument qu'ils soient à la table, surtout dans les grands projets qui se passent, et ne pas être sur le côté. Ils doivent vraiment être, comme je dis, à la table des décisions, puis je pense que ça, c'est une belle opportunité pour eux.
Et côté circulation, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est dense depuis le boulevard du Tricentenaire, et ce, jusqu'à un petit peu passé le pont d'étagement du CN. J'essaie de voir ce qui se passe dans le secteur actuellement. Est-ce que c'est vraiment problématique? Non, ça semble être simplement dense dans le secteur. Juste avant la sortie Henri Bourassa Est, on parle d'un accrochage dans la voie de droite. Donc, voie de droite entravée, voilà le problème. Pour la suite des choses, ça va bien pour franchir Charles de Gaulle, traverser vers la rive nord. Secteur Repentigny, c'est un peu dense, secteur Valmont, mais non, quand même, ça va bien pour la suite des choses. Je voulais vous en parler, la 341, entre la 40 et la rivière L'Assomption, c'est très, très lourd actuellement, montée de l'Épiphanie. Pont Le Gardeur, approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord, un petit peu dense après la jonction avec la 440 du côté de Terrebonne, Mascouche, ça se passe bien, 25 Nord. Pont Sophie-Masson, facile actuellement, et finalement pour la 640, c'est simple dans les deux directions, entre la 25 et la 40. L'actualité dans un instant.
Ici Pascal Babin. Le Festival Saint-Patrick de Radon, présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, est de retour. La municipalité vous propose un week-end festif de tradition irlandaise du 13 au 15 mars. Des soirées animées et des activités pour toute la famille durant 3 jours. Et ça se termine le dimanche avec la traditionnelle parade dans les rues de Radon de 14h. Mais arrivez tôt, puisque plusieurs activités sont prévues avant, pendant et même après la parade. La municipalité tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Visitez le radon.ca pour plus de détails.
Ici Catherine Barry et Tania Devillers, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Avant de partir en voyage, pensez à préparer une trousse santé à apporter avec vous. Nous allons la personnaliser afin qu'elle convienne à vos besoins et aux risques de votre destination. Lorsqu'on voyage, il est également recommandé de s'informer sur les différentes maladies possibles. Nous pouvons vous prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur, et un traitement préventif pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. Et n'oubliez pas de mettre à jour votre carnet de vaccination. nous pouvons vous prescrire et vous administrer les vaccins nécessaires.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou venez nous voir en pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro un des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
C'est officiel! Le tout nouveau Super C Berthierville ouvrira ses portes le jeudi 19 mars dès 8h sur la rue Notre-Dame. Un magasin tout neuf, avec une tonne d'économies à chaque semaine et le programme Moi pour encore plus d'avantages. En faisant votre commande en ligne, vous pourrez aussi profiter de la livraison à domicile tout en conservant la même fraîcheur et les mêmes bas prix qu'en magasin. Venez nous voir le 19 mars prochain au Super C Berthierville. C'est super, Super C!
Venez découvrir la gamme de côte-à-côte Honda Pioneer chez JM Sport Saint-Gabriel. Pour vos journées de travail ou de belles aventures en famille, nous vous guiderons vers le Honda Pioneer qu'il vous faut. JM Sport Saint-Gabriel, une entreprise familiale depuis 1987.
L'actualité de ce lundi 9 mars. En manchette, Tommy Carranza-Landry passera les prochaines années derrière les barreaux. L'enquête se poursuit sur les événements violents à Repentigny et l'essence poursuit son ascension vers de nouveaux sommets. Mais tout d'abord, Pierre Jubinville, un employé d'une garderie de l'Assomption, se retrouve derrière les barreaux.
Oui, c'est Tommy Carranza-Landry, reconnu coupable aujourd'hui du meurtre au deuxième degré d'un bambin de 18 mois dans une garderie de l'Assomption. C'est arrivé en décembre 2023, il écope de 14 ans. À cette sentence, il faut soustraire la détention préventive dont il est l'objet depuis son arrestation. On écoute François Morin.
Il reste donc à Tommy Carranza-Landry 10 ans, 7 mois et 15 jours à purger avant d'être admissible à une libération conditionnelle. La procureure de la Couronne, Sarah Baudry-Leclerc.
Indépendamment du moment où M. Carranza-Landry aura droit à une libération conditionnelle, il demeurera quand même sous la supervision des services correctionnels pour le reste de ses jours.
Même si Tommy Carranza-Landry a éprouvé des remords, qu'il n'a aucun antécédent, que son état mental était affecté, le juge Marc-André Blanchard a indiqué que la violence des gestes, l'abus de confiance et d'autorité, sa consommation d'alcool sur les lieux de travail et les nombreuses versions des faits ont joué en sa défaveur. À nouveau, Maître Baudry-Leclerc.
Il y a une partie des gestes qui demeurent, le juge l'a bien souligné, inexpliqués et inexplicables. Alors, bien évidemment, il y a des questions qui demeurent sans réponse à ce jour pour les membres de la famille.
Ni la défense, ni la famille de la victime, et encore moins celle de l'accusé, ont accepté de répondre aux questions des médias. François Morin, Cogeco Nouvelle, au Palais de justice de Joliette.
L'enquête se poursuit à Repentigny, Pierre, sur les événements violents du week-end.
Oui, une altercation qui s'est produite en fin de semaine devant un dépanneur qui se trouve à proximité de l'école Horizon. Elle implique un élève et un agent de sécurité du dépanneur. C'est une personne âgée d'ailleurs, et comme nous l'indique le directeur adjoint du service de police, Steve Toupin, il n'est pas exclu que des individus soient éventuellement mis en état d'arrestation.
Plusieurs personnes ont été identifiées, mais vous comprendrez que lorsqu'il y a un événement de cette ampleur-là, où il y a plusieurs personnes impliquées, parfois la collaboration des gens est plus difficile. Mais somme toute, là, on a été en mesure d'identifier plusieurs personnes lors d'événements et l'enquête suit toujours son cours.
Et puis, le prix du pétrole, Pierre, on l'a bien remarqué, là, vers de nouveaux sommets.
Oui, une hausse importante, tout ça évidemment en raison des répercussions directes pour les consommateurs, puisque certains experts croient que l'essence pourrait bientôt se vendre plus de 2 $ le litre au Québec. On écoute Philippe.
Le prix du baril de pétrole augmente jour après jour depuis le début de l'offensive israélo-américaine en Iran. Une flambée jamais vue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Déjà dans plusieurs régions du Québec, le litre d'essence coûte 25 cents de plus qu'avant le début de la guerre. Et c'est loin d'être terminé, selon l'expert en énergie Yvan Klich.
Si la situation perdure, moi je pense qu'allègrement, on va se rendre à 2 $ le litre.
Pendant ce temps, les bombardements de grande ampleur se poursuivent en Iran. Mais les gardiens de la révolution continuent, eux, d'attaquer quotidiennement les intérêts américains dans plusieurs pays du Golfe. Justin Massy est professeur de sciences politiques à l'UQAM.
Il y a encore des missiles qui sont envoyés, encore des drones qui sont envoyés aujourd'hui. Donc, les États-Unis ne sont pas en mesure de désarmer totalement l'Iran.
Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
Et Pierre, Donald Trump qui prétend que la guerre est terminée.
Oui, il change de discours comme les jours. Samedi, la guerre durerait 6 mois. Aujourd'hui, il dit qu'elle est presque finie. L'Iran, pourtant, Claude, n'a plus de marine, de flotte aérienne, mais toujours des mollets au pouvoir.
Et débat ce soir aux communes, justement, sur la guerre en Iran.
Oui, à propos de l'approche que le gouvernement canadien doit adopter à l'égard de cette guerre, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a d'ailleurs critiqué Mark Carney, qui ne sera pas présent lors du débat.
Monsieur Carney a eu 4 positions sur la guerre en Iran en 4 jours. Il se contredit sans arrêt. Personne ne connaît sa position. Même ses propres députés ont été cités dans le journal disant « What the hell » parlant de lui. Et maintenant, il se cache.
Et course à la chefferie de la CAQ, un autre appui pour Christine Fréchette.
Oui, celui de Mathieu Lemay, il est député de Masson. Il reste 1 semaine pour devenir membre de la CAQ et obtenir ainsi un droit de vote le 12 avril. Monsieur Lemay considère que Mme Fréchette est la mieux placée dans le contexte actuel.
Ben merci beaucoup à Pierre Jubinville.
Au revoir.
Il est 16h35.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. Lanaudière PM, communautaire.
L'ex-député fédéral de Repentigny, Monique Posé, dénonce les féminicides que connaît le Québec depuis le début de l'année. Retraitée, mais toujours militante, elle a profité d'une allocution au Centre à nous dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes pour partager les grandes lignes de son parcours professionnel inspirant. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de la rencontrer.
Monique Posé, ex-députée fédérale de Repentigny, maintenant à la retraite. Vous prononcez une conférence aujourd'hui au Journée internationale des droits des femmes et sur invitation de votre successeur, M. Bonin. On dit de vous, Mme Posé, que vous avez eu un parcours inspirant de l'enseignement au militantisme syndical puis à la vie politique, un cheminement marqué par l'engagement et la détermination. C'est ça, Monique Posé?
Oui, oui, je pense qu'on pourrait me définir comme ça. Je disais que au début, quand j'ai commencé à enseigner, j'adorais, j'étais passionnée par ça. Et dans ma tête, je faisais ça jusqu'à ma retraite. Mais la vie s'est chargée de me montrer d'autres chemins qui m'ont tout autant passionnée. Alors, quand j'étais au syndicat, à temps plein, j'étais aussi passionnée par ce que j'apprenais, par ce que je faisais. Et quand arrivée comme députée, je suis arrivée avec beaucoup d'humilité, mais passionnée encore une fois, et au bout de 10 ans, j'étais heureuse. Je pense que c'est la place, finalement, le moment dans ma vie où j'étais le plus heureux. Les gens ici ont été m'ont accueilli les bras ouverts, et non, vraiment, je suis contente.
Quel message vient-on justement porter à ces gens-là qui vont assister à votre conférence aujourd'hui?
Ben, je pense que le message, je pense que mon parcours que j'aurais jamais pensé faire, mais je pense que mon parcours, il pourrait peut-être effectivement inspirer des gens puis de leur dire que c'est pas parce que ça va mal à un moment donné que oups, tu sais, y a pas une porte et que les portes qui s'ouvrent devant nous, c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit les refuser. On doit continuer. Y a une porte qui s'ouvre. Des fois, on se pense on dit, oh mon Dieu, mais non, mais je serai jamais capable, hein? Réaction de femme, malheureusement. Mais si on prend cette porte-là, peut-être que ça va nous amener ailleurs aussi. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pour être présidente d'un syndicat de 10 000 membres, je me dis, oh mon Dieu, je suis pas capable, mais je l'ai fait. J'ai aimé ça. Être députée, oh mon Dieu, je suis pas capable, mais je l'ai fait. J'ai aimé ça. Et je pense que c'est ça que je voudrais que les gens retiennent. Puis je voudrais aussi qu'ils retiennent que le mouvement des femmes, les droits des femmes, nos revendications, ben il faut les faire avec les hommes. On peut pas les faire toutes seules. Il faut les faire avec les hommes. Puis il y en a des hommes qui sont pour la justice sociale, qui sont pour les droits des femmes. Alors, faut travailler avec eux autres.
Avez-vous l'impression qu'au fil des ans, les femmes ont pris de plus en plus leur place sur la scène politique?
Cette année, en 2026, ça fera 65 ans qu'une première femme aura été élue à l'Assemblée nationale du Québec, Mme Kirkland Casgrain. Alors, je me dis, c'est récent. C'est pas si vieux que ça. Alors, oui, les femmes, tranquillement, ont fait des pas. Il y a eu même des caucus, des ministres qui c'était paritaire. Mais je me demande si on n'est pas un petit peu en recul. Puis le recul, beaucoup parce que il y a des femmes en politique, mais qui se font harceler par les réseaux sociaux, qui se font mépriser par les réseaux sociaux.
Des menaces réelles aussi.
Et des menaces. Et ça a amené beaucoup de femmes, entre autres en politique municipale, à abandonner. Alors, je pense que c'est difficile. Vous savez, des droits, c'est jamais figé dans le béton. Il faut toujours se battre.
Il y a une statistique épouvantable là, au Québec depuis le début de l'année. Puis je pense qu'il faut en parler. Des féminicides, là, Madame Posé, on est rendu à 7 au Québec. C'est injustifiable. Comment on peut contrer ça?
Le contrer. Vous avez raison quand vous dites que c'est injustifiable. Ça l'est. On est juste le 9 mars, il y a déjà 7 féminicides. Ça n'a pas de bon sens. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Je suis une enseignante à la base. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation. Alors, c'est sûr que l'éducation que les jeunes reçoivent dans les écoles, l'éducation que les jeunes reçoivent à la maison, les modèles qui doivent les inspirer. Alors, je pense qu'il y a à la base, c'est ça, ça serait la prévention. Après, je veux dire, si malheureusement, il y a malgré tout un féminicide, malgré tout de la violence conjugale, ça doit être clair que ce n'est pas acceptable. Et je vais saluer quand même le travail du gouvernement du Québec quand il a mis sur pied un tribunal spécialisé pour le harcèlement et la violence, particulièrement violence conjugale. Mais malheureusement, je pense que ce tribunal-là est pas encore très efficace, malgré que ça fait quelques années, là. C'est long.
L'égalité homme-femme, on peut y croire, on devrait y croire, faut y croire, faut que ça se fasse.
Mais on devrait y croire, oui, il faut y croire, vous avez tout à fait raison. Malheureusement, encore une fois, avec la montée de ce qu'on appelle le masculinisme, mais qui a une portée incroyable sur les réseaux sociaux, peut-être que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qu'on rencontre, non, mais à cause des réseaux sociaux, ça a une portée et une influence qui est extraordinaire, malheureusement. Alors, et ces gens-là veulent nous ramener, dans le fond, des années 60. Ils veulent mettre de l'avant leur masculinité, mais au détriment des femmes. Mais non, ça va ensemble, là. Je veux dire, comme je disais tantôt, hommes et femmes, ensemble, peuvent mener de grandes luttes.
Retraitée, mais toujours militante dans l'âme.
Ah, toujours militante, effectivement. Et j'attends une grosse manifestation pour la paix dans le monde. Je vais y participer. Je suis prête. Mes souliers de course m'attendent.
C'était l'ex-députée fédérale de Repentigny, Monique Posé. Il est à 16h41. Elle parlait de masculinisme. Il y a souvent trop de masculinisme toxique. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Et ce masculinisme-là est tout le temps associé à l'extrême droite. Si on recule dans le temps, il y a peut-être une vingtaine, trentaine, une quarantaine d'années, on parlait de masculinisme, mais c'est une question de solidarité entre les hommes. C'était des hommes qui s'entraidaient, des hommes qui vivaient des moments difficiles et qui s'entraidaient entre eux. Mais là, maintenant, lorsqu'on parle de masculinisme, malheureusement, ben on associe ça à l'extrême droite et c'est de la dérape totale et c'est ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Il est 16h42, les hommes ne sont pas en guerre contre les femmes. Il faut retirer ça. Enlever ça de la tête, c'est complètement ridicule. Dans un instant, Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas-Dépanneur des Lacs, à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie-Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Combien de cornichons Harvey's peut-il caser dans son événement spécial cornichons? Comptez 4 cornichons frits et croustillants pour seulement 3 $. En plus du retour de notre poutine aux 2 cornichons, garnis de cornichons croustillants et en dés, délicieusement relevés. L'événement spécial cornichons chez Harvey's. Disponible au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
Pour un temps limité, taxe en su.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette Nissan est là pour vous. Pendant l'événement, maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
C'est officiel! Le tout nouveau Super C Berthierville ouvrira ses portes le jeudi 19 mars dès 8h sur la rue Notre-Dame. Un magasin tout neuf, avec une tonne d'économies à chaque semaine et le programme Moi pour encore plus d'avantages. En faisant votre commande en ligne, vous pourrez aussi profiter de la livraison à domicile tout en conservant la même fraîcheur et les mêmes bas prix qu'en magasin. Venez nous voir le 19 mars prochain au Super C Berthierville. C'est super, Super C!
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Pierre Paquette qui est de retour de sa semaine de relâche qu'il a passée en Espagne. Salut Pierre.
Oui, salut.
Le prix à la pompe qui pourrait dépasser rapidement les 2 $ le litre au Québec, Pierre.
Ben là, on parle de l'ordinaire, là, parce que moi, je suis allé remplir la voiture de ma blonde hier, puis c'était à 1,99 à Montréal.
Mm-hmm.
Donc, parce que, oui, on parle du 2 $ pour l'ordinaire, mais oui, c'est probablement ce qui va se produire, mais ça durera probablement pas très longtemps non plus, parce que je pense que les Américains vont prendre les moyens pour s'assurer que les bateaux puissent circuler dans le détroit d'Ormuz. Là. On sait que 20% du pétrole mondial passe par ce détroit-là. Il y a plusieurs pays du Moyen-Orient qui sont présents dans ce détroit-là, là. Et là, ce qu'on parle, c'est que les bateaux de guerre américains accompagneraient les pétroliers. Et donc, si on débloque ça, c'est sûr qu'il va y avoir un certain relâchement là dans les prix. Ça va rester élevé tant que le conflit va durer, c'est évident, mais ça sera pas aussi élevé que ça a été dans d'autres crises, pour une simple raison, c'est que maintenant, les Américains sont autosuffisants au plan pétrolier, alors qu'avant, ils devaient compter sur les importations. Maintenant, ils ont besoin des importations pour suppléer à ce qu'ils exportent, mais s'ils veulent tout simplement garder leur pétrole, il y a pas ils sont capables d'être totalement autonomes au plan des hydrocarbures. Alors ça, c'est très différent de ce qu'on a connu dans les années 80, 70 ou 90.
La fameuse crise du pétrole des années 70. On dit aujourd'hui que le baril a augmenté de 30 % en à peine quelques heures. Et la question que tout le monde peut se poser, c'est que pourquoi ici au Québec, on est affecté par tout ça aussi rapidement? Parce que on se fournit en pétrole. Le Canada est un producteur de pétrole, ça va de soi. Et le même cas du côté des États-Unis. Les États-Unis produisent du pétrole, achètent du pétrole canadien. Et ouais. Également, faut rappeler que depuis que Donald Trump a envahi le Venezuela, a enlevé Nicolas Maduro, ouais. Ben ils volent également du pétrole aux Vénézuéliens là.
Ouais, mais le pétrole c'est un prix mondial. Alors il peut y avoir des petites variantes à droite et à gauche. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que là, le pétrole qu'on achète actuellement à la pompe, il a été acheté il y a déjà plusieurs mois, donc c'était longtemps avant la crise iranienne, mais on paye quand même le gros prix.
Mais c'est ça, Pierre, il y a quelqu'un à quelque part qui s'en met dans les poches.
Oui, exactement, mais ça c'est un monde tellement monopolisé, il y a tellement peu d'entreprises dans ce monde-là au plan mondial que bon, dès qu'il y a une crise, une possibilité de faire de l'argent, ils anticipent des hausses puis ils nous les répercutent tout de suite. Mais par contre, dès que le problème va s'estomper, les baisses de prix vont se faire très tranquillement. Alors ça, c'est un peu effectivement choquant, mais malheureusement, c'est vrai aussi bien au Canada, au Québec, qu'en Europe ou en Asie. Alors, parce que, encore une fois, le pétrole, c'est une marchandise mondiale et tout le monde en a besoin parce que, bon, d'abord pour le transport, mais aussi dans la fabrication d'énormément de produits, on a besoin de pétrole. Alors, donc, ça va affecter, c'est sûr, l'inflation. Et c'est là où, moi, je comprends pas tellement le calcul de Trump parce que il avait promis de mater l'inflation, de contrôler les prix. Mais là, ce qui se dessine, c'est une inflation beaucoup plus forte, probablement des taux d'intérêt qui vont recommencer à augmenter, et ça à quelques mois des élections de mi-mandat. Oui. Alors, vraiment un drôle de calcul, je sais pas exactement. Moi, j'ai l'impression personnellement, mais c'est tout à fait personnel, que c'est fait enfiropper par le premier ministre israélien, qui l'a convaincu de partir en guerre contre l'Iran, pensant que ça se réglerait en quelques heures, et on voit très bien que ça va durer probablement plusieurs jours, sinon des semaines, j'espère pas des mois, là, mais c'est toujours possible.
Donald Trump devrait donner un point de presse là dans environ un petit peu moins d'une heure. Il a annoncé d'ailleurs déjà dans les dernières minutes que la guerre se terminerait assez rapidement. Là, il l'a rappelé. C'est parce qu'il y a une chose aussi à laquelle il pense. Il pense à ses élections mi-mandat, comme tu le dis.
Exactement.
Et on voit qu'à peu près, il reçoit l'appui d'à peine 30-35% des Américains concernant ce conflit-là.
Ah oui, oui, c'est tout à fait, c'est très impopulaire. Puis c'est la première fois qu'un président américain part en guerre avec un si peu un déficit d'appui. Habituellement, que ce soit la guerre en Irak, au Vietnam, en fait, toutes les guerres qu'on peut se rappeler que les Américains ont menées au fil des décennies, ils avaient le président qui déclenchait cette guerre-là avait toujours un appui majoritaire. Là, pour la première fois dans l'histoire, on va voir ce que ça va donner, mais le président qui déclenche cette guerre-là est minoritaire en termes d'appui au sein de l'opinion publique américaine. Alors, il y a vraiment quelque chose d'assez inédit avec le règne de M. Trump.
Et il disait justement que l'augmentation du prix du pétrole, c'est un tout petit prix à payer là pour la paix, la sécurité des États-Unis dans le monde. Sauf que là, les citoyens américains voient le prix augmenter à la pompe et clairement, ils font un lien avec cette guerre, ça va de soi. Donc, il sera encore moins populaire. Oui, je crois comme toi qu'il s'est fait peut-être avoir un peu par Israël dans tout ça, là.
Bon, parce que je pensais hier que, bon, il dit c'est un tout petit prix à payer. Oui, lui, il tank pas, là. Je veux dire, c'est pas lui qui met l'essence dans les autos de la Maison Blanche.
Oh, oui.
Et puis, il est milliardaire. Alors, moi, j'ai pensé à ça, puis je regardais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est toutes les remarques que les citoyens américains se font en disant, oui, il peut bien dire c'est un petit prix à payer. Lui, ça ne coûte rien, tu sais. Alors, je pense que ça va être vraiment au plan politique, la politique interne, c'est une gaffe monumentale. Et je pense qu'aussi au plan international, on voit bien qu'il n'y a pas d'appui, à part M. Carney, qui les premières heures, c'est un peu monté aux barricades. Mais là, ce soir, il va y avoir un débat d'urgence
oui.
à la Chambre des communes pour un peu rectifier le tir. Là, on va dire oui, on appuie les Américains, mais pas au point d'envoyer des troupes ou de s'immiscer personnellement ou comme pays dans le conflit. Alors, je pense que ce soir, le débat, ça va être intéressant de voir comment les libéraux vont essayer de recentrer le discours pour éviter qu'on soit pris, parce que M. Carney va avoir les mêmes critiques que M. Trump au plan des effets sur l'inflation.
Mais Carney, il faut le rappeler...
On va voir qu'est-ce que ça va faire dans Terrebonne.
Oui, puis Mark Carney qui compte pas participer au débat parlementaire sur la crise au Moyen-Orient pour ce soir. Là-dessus, on doit se quitter. Merci, Pierre Paquette.
Ben, ça me fait plaisir. On se voit mercredi. On se parle mercredi, plutôt.
L'anneau d'IRPM. Culturel.
Et on a l'occasion de recevoir Jean Desrochers, directeur général de la salle de spectacle Crapaud du côté de Saint-Félix-de-Valois. Salut Jean.
Salut Claude.
On va parler de cette programmation culturelle que vous nous préparez là, pour le mois de mars.
Oui, encore un mois très riche en programmation. Alors, cette semaine, le vendredi 13 mars, on reçoit un duo des Laurentides, Mo Fougère, qui font du néo-trad. Propose un répertoire original, féministe, inspiré de la musique traditionnelle québécoise, teinté de jazz, de musique du monde, plein d'influences.
Ben, on a déjà entendu quelque chose dans le genre avec la bottine à une certaine époque aussi, le mélange des genres, donc le jazz qui s'invite dans la musique traditionnelle.
Oui, exactement.
On va écouter un extrait?
Oui.
Ça s'appelle « La gigue... » J'adore le titre. « La gigue des Gaétans ». Et j'en profite pour saluer votre technicien sonore, Gaëtan Boulanger.
Ben oui, je sais pas s'ils vont lui dédier.
La gigue des Gaëtans. Alors, c'est la formation, donc, Mauve Fougère, groupe des Laurentides, qui sera en spectacle ce vendredi.
Oui, toujours à prix découverte nos spectacles du vendredi, alors c'est seulement 23$ pour le spectacle. Sinon, le samedi 14 mars, Bosco Baker, un des coups de cœur à la dernière édition du Festival Mémoire et Racine. Bosco Baker, le style de musique qu'ils font, ils appellent ça du street swing, c'est un mélange de jazz, de ragtime, de blues, mm-hmm. toutes sortes d'influences de musique américaine. Sont vraiment excellents. Alors ça, c'est samedi 14 mars, Bosco Baker. Sinon, pour la veillée de chansons traditionnelles du mois de mars, qui est toujours animée par Kevin Nadeau et Eli Benjamin, l'invité spécial du mois sera Patrick Desmarais, des cousins Branchaud.
Ben oui, les défunts cousins Branchaud. Ben oui. Patrick qui semble vouloir poursuivre une carrière en solo, du moins.
Puis peut-être un message important pour les habitués des veillées de chansons. Avant, on écrivait c'était place garantie, mais là, ça fait quelques veillées qu'on fait complet.
Ouais, ouais.
Donc, les portes ouvrent à 7h30. C'est vraiment premier arrivé, premier servi, ouais. Que vous soyez membre ou pas. Alors,
ça promet, ça veut dire que lorsque c'est plein, j'imagine que l'ambiance doit être extraordinaire.
Ah oui, oui, oui. Ça a donné lieu à des sacrées veillées.
Ouais.
Alors, c'est de 19h30 à 23h30.
Tu rappelles la date?
Vendredi le 20 mars.
Oui.
Sinon, le vendredi 27 mars, le duo Carbou-Bolduc, Thomas Carbou, qui est un guitariste virtuose qui joue de la guitare en 8 cordes. Il joue aussi d'autres instruments comme le bouzouki, le berimbau, en duo avec le percussionniste Pierre-Olivier Bolduc, qui est un pionnier du handpan. Le handpan, ça ressemble un peu à une soucoupe volante. C'est un instrument de percussion qu'on peut faire des mélodies, des notes.
Oui.
Ça ressemble un peu au tambour là, qui vient de Trinidad, Tobago. Il joue aussi plein de flûtes, de kalimba, des petits pianos à pouce qui viennent d'Afrique. Fait que c'est un beau spectacle. C'est vraiment à la croisée entre la musique du monde, le jazz, mm-hmm. beaucoup d'improvisation là-dedans. Alors voilà, le duo Carbou-Bolduc, vendredi 27 mars. Ça va être vraiment une fin de semaine de guitare, cette fin de semaine-là. Le samedi 28 mars, on reçoit MG3, Montréal Guitare Trio, qui est un ensemble vraiment établi, reconnu. Ça fait 25 ans, ça existe. Les gars, ils ont toujours joué un peu de du répertoire de Morricone, grand compositeur de musique
Ennio Morricone, ben exactement. Oui. Quand on parle, on pense à lui, on pense au film. Il était une fois dans l'Ouest.
Dans l'Ouest, dans l'Ouest, oui. Le bon, la brute et le truand. Oui. Il y a plein de grands classiques. Oui, oui, oui. Mais là, pour le dernier album, il se concentre vraiment sur le répertoire de Morricone. Alors, ça va être un spectacle à la mémoire de ce grand compositeur-là. Mm-hmm. Ça, c'est le samedi 28 mars. Sinon, on a notre Ciné Blabla qui est présenté les mercredis à 19h15. C'est du cinéma principalement, très majoritairement du cinéma québécois. Des films qu'on n'a pas l'occasion de voir dans d'autres salles non plus.
Et qu'est-ce que vous allez nous présenter?
Ben, les billets sont en vente sur place. Mm-hmm. Aussi, on garantit les places. Ouais. C'est 10$ pour un film. Vous pouvez vous procurer vos billets sur place. Et aussi, sachez qu'on est un des seuls cinéma où on peut prendre un petit verre en regardant le film.
Oui,
on
c'est
offre le service de bar.
Oui. Ouais.
Donc. Alors, ce mercredi 11 mars, le documentaire La saveur d'une vie, présenté en collaboration avec le mouvement écologique Matalois, et ce sera en présence de la réalisatrice Valérie Pouyanne. Alors,
J'adore ça parce qu'on peut poser des questions à la réalisatrice aussi.
Oui, exactement. Puis ça arrive souvent là qu'on a des invités, on trouve que ça dynamise la programmation
aussi.
Tout à fait. C'est un documentaire qui visite trois refuges pour animaux à travers leur histoire. On découvre que les animaux sont pas si différents que nous. Intelligent, sensible, solidaire, têtu et même tricheur. Alors, c'est un peu une réflexion sur tout notre rapport aux animaux.
Oui.
Puis aussi via nos habitudes alimentaires et de consommation. Le 18 mars, un autre documentaire, La marche au pays réel de Marie-France Lécuyer. C'est deux explorateurs québécois qui partent du point le plus au sud du Québec qui se rendent au point le plus au nord. Alors, c'est toute une réflexion sur le territoire puis le rapport des Québécois avec leur territoire. Mm-hmm. Et sinon, le 25 mars, le tout dernier film du réalisateur très connu, Philippe Falardeau, qui a fait entre autres Monsieur Lazare et d'autres films. Ça s'appelle Mille secrets, mille dangers.
Ah,
c'est
oui.
une comédie dramatique. Alors,
on peut y voir la naudoise Claudine Desrochers, d'ailleurs, là, qui participe au film. C'est à voir. J'ai adoré le film.
Ouais, bon.
C'est bon.
Sinon, la programmation du printemps de Ciné Blabla est en ligne aussi. Alors, pour tous les détails, vous pouvez consulter le crapaud.qc.ca.
Merci, Jean Desrochers. C'est déjà tout en ce qui nous concerne pour Lanaudière PM. On sera là, nous, demain à 16h pour une autre édition. Salutations à nos collaborateurs. Salut, bye-bye!